Comment est-ce que je pourrais vous convaincre du bienfait qu'il y a à lire l'Évangile tous les jours? Tous les jours, il y a une messe. On ne peut pas aller à la messe en semaine tous les jours. Mais on peut tous les jours lire l'Évangile, au moins l'Évangile, parfois la première lecture, mais au moins l'Évangile. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on entre progressivement dans une meilleure connaissance du Christ. Et c'est quand même des grands bénéfices d'Internet, cet accès aux textes, à tous les textes. Cette semaine, il y avait, mardi, le récit dans l'Évangile d'une résurrection. D'une enfant, des trois récits de résurrection, une enfant que Jésus ramène à la vie. Et la dernière phrase du texte disait qu'il ordonna qu'on lui donne à manger, qu'elle se nourrisse. La semaine précédente, nous avons fêté la conversion de saint Paul. Et dans un des textes du récit de la conversion de saint Paul, il est dit... Paul reste pendant 3 jours aveuglé, privé de la vue, sans boire ni manger. Ananie vient lui imposer les mains. Il retrouve la vue, il demande le baptême, il reçoit le baptême. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la nourriture, il se nourrit et les forces lui reviennent. Et quand on a ça en tête, ces textes en tête, on voit la différence avec ce qu'on vient d'entendre avec la belle-mère de Simon. Elle était malade. Jésus la prend par la main, il la relève, la fièvre la quitte. Et le texte dit, et elle les servait. Elle ne se met pas, elle prend pas de la nourriture pour un autre, elle les servait. C'est un mot latin, ministrabat, qui a donné ministère, ministre, servir, serviteur. C'est le signe le plus fort de sa guérison. Si manger est un signe de santé, servir les autres, c'est un signe de super santé. Vraiment, si vous voulez savoir si vous êtes vraiment en grande santé, voyez ce que vous faites pour les autres. Mais pour elle, pour cette femme, c'est aussi le signe de son sens du devoir. Voyez, nous sommes dans la maison de Simon et d'André. Les deux frères que Jean avait appelés à sa suite, avec Jacques et Jean. D'ailleurs, Jacques et Jean font partie du petit groupe, mais à la différence de Jacques et Jean, ils ne travaillaient pas avec leur père. Il n'y avait pas d'ouvriers, ils ne travaillaient pas avec leur père. Ils avaient leur barque à eux. Et ils ont aussi leur maison à eux. Leur maison à eux, où vivait la belle-mère, cette femme, la belle-mère de Simon. Il n'y a pas de mention d'autres femmes ici. Il n'est question que de la belle-mère de Simon. Il n'y a pas d'autres femmes qui auraient été déjà au service, qui seraient occupées de la maison. Non, et donc elle s'y met. Elle se met. Pourquoi? Parce que c'est la règle. C'est très exactement la loi de l'hospitalité. La loi de l'hospitalité veut qu'on s'occupe des visiteurs. De toute personne qui vient avec de bonnes intentions. On les reçoit comme sa propre famille, à condition que cette personne, évidemment, respecte elle-même les lois, les usages en vigueur. C'est le cas, puisque le petit groupe sortait de la synagogue. On ne demande pas à cette femme, à la belle-mère de Simon, si elle est en état de servir après cette fièvre, forte fièvre. Elle était alitée, au lit, avec de la fièvre. À l'époque, on ne se couchait pas pour un rien. C'était vraiment quelque chose de sérieux. Et elle ne se pose pas la question de savoir si elle est en état. C'est son devoir, c'est sa mission, c'est la loi de l'hospitalité. Et les anciens connaissent l'adage qu'on citait toujours en latin ou les juristes, la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. La loi est dure, c'est la même pour tous. C'est très exactement cela, la dureté de la loi. La dureté de la loi vient de ce qu'elle ne tient pas compte des goûts personnels. Elle s'impose à tous. Le rôle de la loi, c'est de nous permettre de vivre ensemble, dans la concorde et dans la paix, dans le respect les uns des autres, ici, maintenant. J'ai un ami athée, je veux dire par là, qui ne croit pas à la vie éternelle. Je le vois régulièrement, je l'ai marié, je connais bien la famille, peu importe. L'autre jour, il vient et comme je travaillais justement sur ce sujet de la loi qui est la même pour tous, sur ce sujet très intéressant... juridiquement et même intellectuellement, de savoir si, sur la question de la discrimination positive, je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu crois à la discrimination positive? Tu es pour la discrimination positive? Je me suis dit, mais pourquoi tu lui demandes ça? Bon. Il m'a répondu, oui, de façon temporaire. Je me suis dit, tiens, voilà, pour les athées, tout est temporaire. C'est ce qui les caractérise. La dureté de la loi. La dureté de la loi, c'est un fil conducteur de l'Évangile. pas seulement c'est la réalité de notre vie, c'est un fil conducteur de l'Évangile, mais qui fait ressortir, en contrepoint, la douceur de Jésus. Gardons ça en tête. La dureté de la loi, la douceur de Jésus. Qui n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. La douceur de Jésus ne contredit pas la dureté de la loi. Il la transcende. Nous le verrons dimanche prochain, c'est le 11 février. C'est la journée mondiale de prière pour les malades. J'évoquerai la maladie de Lazare, l'ami de Jésus. Jésus n'empêche pas Lazare de mourir. Il le ramène à la vie. Et c'est ce que dit une des grandes prières de la messe des défunts. Si la loi de la mort, si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation, nous donne l'espérance. J'ai rencontré, il y a quelques semaines, un petit groupe d'étudiants. On m'a dit, il faut que vous les voyez. Bon, je les ai rencontrés, ils se sont présentés à tour de rôle, et l'un d'eux m'a dit qu'il se préparait au baptême. Waouh, Hosanna! Mais il a ajouté, chez les intégristes. Ah. Et très clairement, il ne partageait pas mon admiration pour la douceur de Jésus. Pour tout ce que je vous dis sans cesse du Christ, sa liberté à l'égard de la loi, quand il rappelle que l'homme n'est pas fait pour la loi, c'est la loi qui est faite pour l'homme. Sa patience, son indulgence, tout ce que nous aimons dans le Christ. Lui, ce garçon, il croyait à la loi. Et même, il croyait qu'il suffit de l'appliquer et en force, si besoin est. Il reprochait d'ailleurs à l'Église, probablement à la société, mais surtout à l'Église, sa mollesse. Il croyait, vous savez, c'est assez répandu, il croyait que la loi peut tout résoudre. Qu'il suffit, chaque fois qu'il y a un problème, de faire une loi. C'était un garçon, il était vraiment sincère, il était sympathique, idéaliste, croyant, pratiquant. Je lui ai dit, mais que lui manquait-il? Vous vous souvenez de la rencontre de Jésus avec cet homme riche qui vient le voir en lui disant, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus le renvoie au commandement de la loi, y compris tu aimeras ton prochain comme toi-même, et l'autre lui dit, tout cela je l'ai observé depuis mon enfance. Que me manque-t-il encore? Voilà une question que nous pouvons nous poser. Une fois que nous avons observé la loi, ce qui est quand même le passage obligé, ce qui doit nous réunir, une fois que nous avons observé la loi, que nous manque-t-il encore? Qu'est-ce qui nous manque pour suivre le Christ doux et humble de cœur? Pour le dire autrement, quelles sont les conditions, les piliers de la douceur? Si vraiment nous aimons la douceur de Jésus. Il y en a trois. La patience, l'humilité, la liberté. La patience plutôt que la tolérance. Vous savez, la tolérance consiste à supporter un mal qu'on ne peut pas empêcher. La patience, elle accueille, elle accepte la personne telle qu'elle est. Parce que la patience, fondamentalement, c'est une confiance dans la puissance transformante de l'amour. Oui, ça prend du temps. Mais l'amour est une force transformante, de transformation. Et la douceur, elle a pour elle l'éternité. L'humilité de Jésus, on le voit à la fin de ce passage d'Évangile quand il part, il quitte la communauté qu'il avait accueillie. Il ne se pose pas la question de savoir s'il préférait rester, si ça lui coûte. Il accomplit sa mission, humblement. C'est vrai pour nous tous. Parfois, même souvent, il y a des questions qu'il vaut mieux ne pas se poser. Des questions de savoir si on est content, si ça nous fait plaisir, comment on le sent. Non, il vaut mieux pas se les poser quand l'unique question qui importe, c'est quelle est ma mission? Et puis, il y a la liberté. La liberté, c'est ce qui fait la différence entre la douceur et la mollesse. On a réédité récemment les dernières conférences, des conférences inédites du Père Varillon. Et dans une des conférences, il dit que, Père Varillon disait que être libre, être une personne libre, c'est être capable d'affronter la mort. C'est beau comme définition. C'est exactement ce qu'on voit dans l'Évangile quand Jésus prend le chemin de Jérusalem, là où il va mourir, là où il va donner sa vie pour nous. L'Évangile dit que il durcit son visage. Lui, l'homme de douceur, il marche librement pour offrir sa vie, il durcit son visage. Voyez, dans la deuxième lecture qu'on a entendue, cette parole de Saint Paul, « Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. » Se faire tout à tous, ouvert aux uns comme aux autres, accueillant pour leur salut, pour le salut, fort avec les forts, doux avec les faibles. Voilà la douceur de Jésus, fort dans sa mission, doux et humble de cœur. Cette douceur qui transcende la dureté de la loi, même de la loi de la mort. La douceur de Jésus transcende la loi, elle ne la contredit pas. Jésus, doux et humble de cœur, libre et fort.